Casse-tête. Avec Selectour Affaires, le voyage d'affaires devient un levier de performance. Nous construisons avec vous une politique voyage sur mesure. Coût optimisé, empreinte carbone maîtrisée, sécurité et bien-être des voyageurs. Des consultants dédiés vous accompagnent à chaque étape, de la PME au grand compte. Nos solutions s'adaptent à vos besoins. Selectour Affaires, 50 ans d'expertise au service de vos déplacements professionnels. Rendez-vous sur selectour-affaires.com.
Bonjour.
Ah, tu l'as enfin changé ton utilitaire.
Oui, neuf, bien équipé et sans apport.
Sérieux ? Même pas d'apport ?
Zéro, juste des mensualités claires. Je garde ma trésorerie pour mon activité, pas pour mon véhicule. Avec Peugeot, démarrez l'année sans compromis. Une flotte moderne, votre trésorerie préservée et maintenant jusqu'à 8 ans de garantie. Jusqu'au 31 janvier, le Peugeot Partner est à partir de 235 euros hors taxes par mois, sans aucun apport.
Crédit bail 60 mois, 50 000 km sans apport pour un partenaire, réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation crédit par. Garantie Peugeot Care, conditions sur Peugeot.fr.
Europe 1.
Pierre de Villeneuve.
Le conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique, François Hesbourg, pour parler de Donald Trump qui s'exprime justement en ce moment à la Maison Blanche et le bras de fer avec Emmanuel Macron. Ça sera juste après votre journal. Bonsoir Maëlle Sani.
Bonsoir Pierre, bonsoir à tous.
20h sur Europe 1.
Europe 1 soir.
19h-21h. Pierre de Villeneuve.
Au sommaire, lancement des débats sur la fin de vie dans l'hémicycle du Sénat.
La majorité de droite et du centre espère limiter drastiquement les conditions d'accès à la future aide active à mourir. Le président des Républicains, Bruno Retailleau, se dit lui totalement opposé à ce principe. Un texte d'abandon, selon lui. Les détails dès le début de ce journal. Sébastien Lecornu déclenche un premier 49-3 pour faire adopter la partie recette du budget de l'État. Sans surprise, le RN et LFI déposent deux motions de censure, mais le PS devrait sauver le gouvernement. Tout en reconnaissant l'absence d'alternative, la présidente de l'Assemblée nationale dit regretter ce passage en force, vous l'entendrez. Dans ce journal également, l'Europe qui amorce une riposte au projet fou de Donald Trump, la ratification de l'accord commercial entre les États-Unis et les 27 est gelée. Et puis Sporting Portugal PSG, 7e journée de Ligue des Champions de football, les Parisiens espèrent se rapprocher des 8e.
La tendance météo, Marlène Duret.
Nouvelle perturbation en Bretagne, de nouvelles pluies qui vont tomber sur des sols déjà gorgés d'eau et elles s'accompagneront de bonnes rafales de vent. Donc il y a une alerte orange prévue dans le Finistère et le Morbihan à partir de 4h cette nuit et jusqu'à 16h demain après-midi. On trouvera un temps beaucoup plus calme en allant vers l'est.
Météo complète dans 10 minutes. Coup d'envoi d'une semaine de débats hautement sensibles au Sénat.
La proposition de loi sur la fin de vie est examinée depuis la fin d'après-midi dans l'hémicycle de la Chambre haute. Ce texte prévoit notamment la légalisation d'une aide active à mourir. C'est la réforme sociétale voulue de longue date par Emmanuel Macron. Mais la majorité de droite et du centre veut instaurer un certain nombre de garde-fous. Récit de cette première journée de débat avec Jacques Serey pour Europe 1.
Lorsqu'elle se présente à la tribune, la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, est bien décidée à faire passer cette réforme.
C'est une demande très forte de nos concitoyens qui nous est collectivement adressée, celle de ne pas détourner le regard.
Mais face à elle, la droite sénatoriale est loin d'être convaincue, bien au contraire.
Pourquoi ce texte maintenant, alors que tant de patients meurent encore sans accès effectif aux soins palliatifs ?
La rapporteure de la Commission des affaires sociales, Christine Bonfanti-Dossat, monte au front.
La réponse, mes chers collègues, n'est pas médicale. Elle n'est pas non plus juridique. Elle est politique.
Suivie de Bruno Retailleau.
Les garde-fous d'aujourd'hui ne garderont rien du tout. Dans ce domaine-là, les portes entrebâillées finissent toujours grandes ouvertes parce qu'il y a une logique, la logique de l'émancipation radicale.
Une logique défendue par l'écologiste Anne Souyris.
Notre République doit maintenant garantir la liberté, l'égalité, la fraternité face à la mort. Mon corps, mon choix.
Deux conceptions, deux visions de la vie et de la mort irréconciliables.
Jacques Serey du service politique d'Europe 1.
Et de ce sujet, on en parlera bien sûr à partir de 21h dans la France en face. Laurence Ferrari et Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1 reçoivent Robert Ménard. Comme promis, la France insoumise et le Rassemblement national déposent ce soir deux motions de censure contre le gouvernement.
Conséquence du déclenchement de l'article 49.3 par le Premier ministre en début de soirée pour faire adopter la partie recette du budget de l'État. Mais Sébastien Lecornu devrait, sauf immense surprise, être sauvé par la clémence du Parti socialiste. Une relative stabilité au prix d'un passage en force, ce que regrette la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet.
Ce budget est suffisamment équilibré pour qu'il puisse recueillir un accord de non-censure, et c'est ce qu'a annoncé notamment le Parti Socialiste. Donc moi, je suis assez sereine, et puis nos compatriotes nous le disent, ils ont besoin d'un budget, nous avons besoin d'un budget, nous sommes le 20 janvier, nous ne pouvons pas continuer de la sorte, donc je crois que le principe de réalité et le pragmatisme doit l'emporter, le sens de l'intérêt général, parce que c'est ça qui doit nous animer. Vous savez, nous sommes députés de la nation, et donc aujourd'hui, nous devons doter la France d'un budget, et donc il ne faut pas que ces motions de censure soient adoptées. J'appelle évidemment la responsabilité de chaque parlementaire dans cet hémicycle de doter la France d'un budget. Chacun en est responsable aujourd'hui.
La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, et le Premier ministre devraient déclencher deux autres 49.3 sur le budget, dès vendredi sur la partie dépenses et ensuite sur l'intégralité du texte, dont la promulgation est prévue mi-février. Les agriculteurs comptent bien passer la nuit à Strasbourg. Plus de 5000 manifestants venus de plusieurs pays se sont retrouvés aujourd'hui devant le Parlement européen pour dire non au Mercosur. L'accord commercial entre l'Union européenne et plusieurs États sud-américains est signé depuis samedi, mais les paysans mobilisés veulent faire pression sur les eurodéputés, appelés à se prononcer demain sur une éventuelle saisine de la justice afin de vérifier la légalité du texte. Le Parlement européen qui entame un bras de fer avec Donald Trump. Les eurodéputés se mettent d'accord pour geler le processus de ratification de l'accord commercial signé l'été dernier entre les 27 et les États-Unis. Accord très favorable à Washington puisqu'il prévoit de supprimer les droits de douane sur les exportations américaines vers l'Europe. Réponse ferme au projet de Donald Trump sur le Groenland, sur le Conseil de paix totalement à sa main, ou encore sur les menaces de guerre commerciale. La France ne craint pas ce rapport de force avec la première puissance mondiale. C'est ce qu'affirmait tout à l'heure le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot devant les députés lors de la séance de questions au gouvernement.
La France ne se soumet à aucun chantage et ne se soumettra jamais. Elle conçoit la souveraineté comme indivisible pour elle-même comme pour les nations du monde. Non à la remise en question de l'intégrité d'un territoire européen placé sous la protection de l'OTAN. Oui à la mise en œuvre du plan de paix présenté par le président des États-Unis que nous soutenons sans réserve, mais non à la création d'une organisation telle qu'elle a été présentée qui viendrait se substituer aux Nations Unies. Non enfin à la menace de droits de douane brandie comme un chantage pour obtenir des concessions injustifiables. La France soutient la suspension de l'accord commercial avec les États-Unis voulu par le Parlement européen. Et si la coercition devait se matérialiser, alors l'Europe en tirerait toutes les conséquences.
Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot à l'Assemblée nationale tout à l'heure, et Donald Trump est justement en train de s'exprimer en ce moment depuis la Maison Blanche. Emmanuel Macron, lui, prenait la parole à la mi-journée depuis le forum de Davos en Suisse. Le président de la République appelle ses partenaires européens à rester calme face au président américain. N'acceptons pas un ordre mondial qui serait décidé par ceux qui prétendent avoir la voix la plus forte ou le bâton le plus fort, a-t-il déclaré.
Le bilan s'alourdit encore dans le sud de l'Espagne.
Le corps d'une 42e victime de la catastrophe ferroviaire survenue à Adamus dimanche soir en Andalousie, retrouvée cet après-midi par les enquêteurs. Les causes de cet accident impliquant deux trains à grande vitesse restent inconnues à ce stade. Selon les médias espagnols, l'enquête est centrée sur l'existence d'une fissure de plus de 30 cm de long sur la voie à l'endroit de la collision. Les travaux de la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public ont pu reprendre, mais le rapporteur, le député UDR Charles Alloncle, déplore le retard accumulé depuis la suspension des convocations fin décembre sur fond de tension avec le président de la commission, l'élu Horizon Jérémy Patrié-Lettus. Ce dernier propose d'ailleurs d'auditionner dans les prochains jours les anciens chefs d'État François Hollande et Nicolas Sarkozy, ou encore l'animateur Patrick Sébastien, qui a souvent fait part de sa disponibilité.
Il est 20h08 sur Europe 1. Le PSG pourrait se rapprocher dès ce soir des huitièmes de finale de Ligue des Champions.
Le champion d'Europe en titre se déplace ce soir à Lisbonne et compte bien rester dans le trio de tête au classement général. Pour cela, Cyril de la Morinerie, dans cette 7e journée de la compétition, les Parisiens devront briller contre le Sporting Portugal.
Oui, le PSG se déplace au stade José Alvalade, une enceinte bouillante. Les coéquipiers de Marquinhos vont défier le champion du Portugal en titre, vainqueur en début de saison de l'Olympique de Marseille. Objectif gagné afin d'être pratiquement assuré d'une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Et le PSG pourra s'appuyer sur son excellent défenseur portugais Nuno Mendes, qui va affronter ce soir son club formateur, non sans émotion.
C'est une fierté de revenir à la maison. Ça va être un match spécial pour moi. Un peu de pression, normal, c'est un match de Champions League, mais on essaie d'être au mieux niveau pour essayer de gagner.
Et l'atout principal du PSG sera ce soir Ousmane Dembélé, bien sûr. Le ballon d'or qui a marqué vendredi dernier face à Lille, un but somptueux, est à nouveau au sommet de son art, confirme le consultant d'Europe 1, Alain Giresse.
quand on marque un but comme il a marqué, c'est la démonstration qu'effectivement, on a retrouvé tous ses moyens. Il a bien récupéré de sa blessure. Et ce qui lui permet, quand il est dans cet été-là, de sortir comme ça des gestes qui font partie des très grands joueurs.
Éliminé de la Coupe de France par le Paris FC, le PSG veut défendre sa couronne en Ligue des Champions et fera tout pour s'imposer ce soir à Lisbonne.
Cyril Delamorinerie, match à suivre sur les antennes de Canal+, dès 21h, tout comme la rencontre d'un autre club français, l'AS Monaco, qui se déplace ce soir au Bernabeu pour affronter le Real Madrid.
Merci Maël Hassani. Marlène, durée un temps perturbé demain dans le Nord-Ouest.
Oui, comme aujourd'hui, avec des pluies durables qui vont venir grossir les cumuls et les cours d'eau en Bretagne. Le Finistère est déjà placé en alerte orange crue, avant de passer en alerte orange pluie inondation cette nuit à 4h avec le Morbihan. Donc deux départements bretons sont sous surveillance. Le matin, il pleuvra donc de la Bretagne et des Pays de la Loire vers la Normandie et l'ouest des Hauts-de-France. Et puis l'après-midi, la perturbation va stagner un petit peu. Les pluies ne concerneront plus les Hauts-de-France et elles prendront le chemin du Poitou-Charentes et même une partie de la Gironde. Il y aura pas mal de vent aussi. Dégradé de moins en moins nuageux en allant vers l'est. Après une matinée parfois brumeuse, on a quand même pas mal de brouillard et de grisaille entre le Lyonnais et l'Alsace. Brouillard localement givrant d'ailleurs. Et puis du grand soleil en se rapprochant des Alpes du Sud et de la Côte d'Azur. En Corse aussi, c'est le retour du soleil. On termine par nos entrées maritimes qui sont de retour entre le golfe du Lion et le sud du Massif central avec quelques pluies attendues entre la Montagne Noire et les Cévennes. Les températures toujours élevées pour la période de l'année, avec sur le flanc est demain matin des valeurs comprises entre moins 4 et 3 degrés, et fait frais, 5 à 8 sur la façade ouest. L'après-midi, elles oscilleront entre 4 et 16 degrés, 4 sous la grisaille à Colmar, il fera 6 à Dijon, 8 à Annecy, 10 à Lille, 11 à Nevers, à Rennes et à Caen, 12 à Paris et Toulouse, 13 à Bourges, Bordeaux, Avignon, 14 à Marseille et jusqu'à 16 degrés à Perpignan.
Merci Marlène Duret. Dans un instant, et alors que Donald Trump est en train de dire qu'on a le droit de mettre en place des droits de douane à la Maison-Blanche, on en parle avec François Hesbourg, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique sur Europe 1. À tout de suite.
Bonjour, c'est Charlotte Dornelas. La liberté d'expression, vous l'entendez sur Europe 1, car chaque voix compte.
Charlotte Dornelas, une signature Europe 1, tous les jeudis à 8h40. Europe
1. La radio libre.
Choisissez votre destination et nous irons ensemble par la mer. N'attendez plus et embarquez avec CFC Croisières pour des vacances d'exception, tout en profitant du calme et du confort d'un navire à taille humaine. Terre en vue avec CFC Croisières. En ce moment, cédez à l'offre L'Appel du Large, réservé pour vous, et le deuxième passager est à moins 50%. Offre soumise à condition. Plus d'informations au 0800 03 03 03, service et appel gratuit, et sur cfc-croisières.fr.
Et vous n'allez pas encore vos yeux.
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Merci à Catherine. Merci à Nicole, André, Mireille ou encore Patrick. Merci à toutes ces personnes qui, grâce à leur legs en faveur du Secours catholique, nous ont donné les moyens d'agir chaque jour pour les plus démunis. Sur la terre comme au ciel, continuez vous aussi le combat pour la fraternité en faisant à votre tour un legs au Secours catholique. Demandez votre brochure legs auprès de Pascal en appelant le 0805 212 213 ou sur legs.secours-catholique.org.
Renault.
On dit que les histoires d'amour durent 3 ans. Avec Renault Car Service, entre ma voiture et moi, ça va durer bien plus longtemps. Grâce à leur forfait entretien véhicule de plus de 3 ans à 99€. 38 points de contrôle, vidange et remplacement du filtre à huile inclus. Est-ce que ça compte? En tout cas, ça me donne de bonnes raisons de rester fidèle à Renault Car Service. Pour prolonger la durée de vie de ma voiture, qui mieux que Renault peut entretenir ma Renault?
Conditions dans réseau Renault participant.
Europe 1, le journal permanent.
À 20h13 sur Europe 1, LFI et l'ERN vont déposer des motions de censure après l'utilisation du 49.3 par Sébastien Lecornu sur la partie recette du budget de l'État. Motion qui ne devrait pas aboutir faute de soutien du PS. Deux autres 49.3 seront nécessaires d'ici mi-février pour faire adopter le projet de loi de finances. Le Parlement européen suspend la ratification de l'accord commercial conclu l'an dernier entre l'Union européenne et les États-Unis. L'accord qui prévoyait des droits de douane de 15% sur les exportations européennes douane vers les États-Unis et la suppression de ses droits de douane pour les exportations américaines vers l'Union européenne. Serge Papin, le ministre du Commerce et des PME, sera d'ailleurs demain matin l'invité de la grande interview Europe 1 CNews à 8h10. Il réagira sur ce sujet et sur d'autres, comme les agriculteurs mobilisés aujourd'hui à Strasbourg, jusqu'à 1000 tracteurs entrés dans la capitale alsacienne. Ils veulent mettre la pression sur les députés européens pour retarder l'entrée en vigueur de l'accord du Mercosur. Les députés appelés à s'exprimer demain sur une éventuelle saisine de la Cour de justice de l'Union européenne. Le bilan de la catastrophe ferroviaire s'alourdit en Espagne. 42e mort retrouvée dans les décombres. La piste du sabotage est écartée. Le Paris Saint-Germain va tenter de faire un grand pas vers les 8e de finale de la Ligue des champions de foot ce soir. Le PSG qui affronte le Sporting Portugal à 21h. L'AS Monaco se déplace sur la pelouse du Real Madrid. Match à suivre sur les antennes de Canal+.
Europe 1 soir,
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Avec autour de la table Gilles Boutin, bonsoir.
Bonsoir,
journaliste au Figaro, bonsoir Alexandre Malafaille.
Bonsoir Pierre de Villeneuve.
Créateur du think tank Sinopia. Bonsoir François Hesbourg.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, conseiller spécial à la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous avez dernièrement écrit chez Odile Jacob « Le suicide de l'Amérique ». Non pas Emmanuel Macron, mais Donald Trump s'exprime en ce moment. Grand point presse à la Maison-Blanche avant son départ pour Davos. Il vient de dire qu'on avait bien le droit de mettre en place des droits de douane. À quoi fait-il référence? Eh bien, notamment à ces 200% de droits de douane dont il menace la France sur les vins et les spiritueux. Si la France ne venait pas à son conseil de paix où il faut accessoirement débourser 1 milliard d'euros ou de dollars pour en faire l'entrée, puisque Emmanuel Macron lui a signifié une fin de non-recevoir. Là-dessus, en apprenant qu'Emmanuel Macron ne voulait pas rejoindre le Conseil de paix, Donald Trump s'est exprimé. Écoutez-le, c'était sur le tarmac de l'aéroport.
Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Personne ne veut de lui. D'ailleurs, il va bientôt quitter le pouvoir. Mais c'est pas grave. S'ils deviennent hostiles, je leur mets une surtaxe douanière de 200% sur ses vins et son champagne. Et là, il adhérera. Mais il n'a pas vraiment besoin d'adhérer. Et s'il a vraiment dit ça, enfin, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit comme vous me le présentez. Mais il aura quitté le pouvoir dans quelques mois.
François Hesbourg, bon là on est dans du Donald Trump dans le texte, comme on a eu l'habitude de le dire. Sur les 200%, vous et moi ne sommes pas forcément certains que ça va aboutir à 200% parce qu'il va y avoir des négociations et puis après c'est « it's all question of give and take » comme on dit en anglais, c'est-à-dire tu me donnes, je prends, on négocie, etc. Mais d'abord sur cette, pardonnez-moi François Hesbourg, énième humiliation d'Emmanuel Macron. Après, il est où Emmanuel à Sharm el-Cheikh? Ah, d'habitude, il est toujours derrière moi. Là, il est au 8e rang. Qu'est-ce qu'il fait? À chaque fois, cette volonté de l'humilier. De toute façon, il sera plus là. C'est même pas la peine. S'il veut pas venir, tant pis pour lui.
C'est une situation totalement baroque. C'est un petit peu comme si je vous invitais chez moi demain soir, mais vous me répondriez en disant « Vous ne voulez pas venir ?» Et je vous répondrais « Si c'est comme ça, je brûle ta voiture. »
Mais
c'est une curieuse façon d'inviter.
J'entends bien. C'est pas civilisé, on va dire.
On sort de la rationalité, quelle qu'en soit la définition. C'est comme.
Mais est-ce qu'on pouvait le prévoir, ça? Après un premier mandat entier de 2016 à 2020.
Je vais vous raconter un secret. Quand j'ai écrit mon livre sur Trump, sur le suicide de l'Amérique, des lecteurs m'ont dit au début, vous êtes beaucoup trop pessimiste. Maintenant, quand je les revois, je leur dis, je dois m'excuser auprès de vous, j'ai été beaucoup trop optimiste. Il y a des niveaux de dérapage qui n'étaient pas prévisibles. Lorsqu'il a tweeté hier au Premier ministre de Norvège que c'est parce que la Norvège avait refusé de lui donner le prix Nobel de la paix qu'il faisait tout ce bruit autour du Groenland, et que du coup, d'ailleurs, il ne se sentait plus du tout obligé de passer son temps à faire la paix.
Donc on est au-delà.
On est dans quoi là?
On est dans l'irrationnel.
On est dans quelque chose. Moi, je suis un analyste des affaires stratégiques et de défense. En général, Je cherche plutôt des explications rationnelles qui tiennent debout, qui permettent d'expliquer pourquoi
mais un tel... Sortons de l'irrationalité, de la rationalité, et imaginez, regardez bien François Hesbourg, et dites-moi si vous me suivez sur le raisonnement. Donald Trump, il va avoir 80 ans cette année.
Ouais.
Hein, il a 2 ans de mandat encore à tenir, mais il a les midterms qui arrivent et il n'est pas sûr de les gagner.
Presque 3 ans.
Hein, presque
20
3 ans.
Janvier 2029.
Voilà. Hein. Donc après, c'est la dernière ligne droite. Il aura tout fait. C'est un self-made billionaire. Parce que quand il récupère l'affaire de son père, de Freddie Trump, c'est pas en super posture quand même, l'affaire de l'immobilier. Donc il arrive quand même à en faire. Alors il a perdu beaucoup d'argent dans les casinos, mais enfin il est quand même devenu l'un des hommes les plus riches d'Amérique.
Non, non. Il est devenu, depuis qu'il est redevenu président, mais il était très loin d'être au niveau des milliardaires de Silicon Valley, les Peter Thiel, les Elon Musk.
Ah ben bah non, il n'est pas au niveau d'Elon Musk. Mais dans les années 80, c'était un homme d'affaires brillant. Il était d'ailleurs invité même dans les films d'Hollywood pour figurer en tant qu'un modèle.
Certes, mais il était surtout multi-banqueroutier. Il avait quand même fait faillite 4 fois en l'espace de 10 ans.
Mais il s'est toujours relevé ?
Ah non, mais il s'est relevé.
Il a un talent pour la négociation.
Il a un talent pour se récupérer. Qui est tout à fait remarquable, et c'est par ailleurs un animal politique extraordinaire. Je veux dire, je vais pas minorer ses exploits.
Et donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Il a de l'argent, il a été président 2 fois, il est dans sa ligne droite, il se dit, en fait, je vais faire tout ce que j'ai pas le droit de faire, et puis on verra bien si on m'engueule.
On est dans la transgression. On est dans le narcissisme. Je suis obligé d'employer des mots qui ne sont pas des mots d'analyse stratégique, mais des mots qui relèvent d'un autre registre. On arrive à la limite du compréhensible. Et vous parlez des droits de douane. Les droits de douane, c'est pas les 200% sur le champagne qui sont ennuyeux pour les producteurs de champagne et autres spiritueux, mais on a les 10% qui attendent des Européens, ceux qui ont manifesté leur solidarité vis-à-vis du Groenland, d'ici le 1er février. Le 1er février, c'est pas dans 3 semaines de palabres. Par ailleurs, le Parlement européen vient à l'instant refuser de ratifier l'accord très favorable aux États-Unis que Mme von der Leyen avait accepté de signer l'année dernière.
Sur les 15%.
Sur les fameux 15%. Mme von der Leyen, qui s'est retrouvée en photo, assise comme une petite fille fautive sur un fauteuil dans le château de
Trump. Est calculé.
Tout était calculé.
Tout est marketing et communication.
Absolument. Et l'humiliation était parfaite. Le résultat, c'est que, bien entendu, l'accord n'existe plus du point de vue européen. Et c'est aux Européens de décider si à jeudi prochain, il décide ou non d'activer ce que les commentateurs appellent le bazooka, qui est l'instrument dit anti-coercition. Donc le vrai test, c'est pas est-ce que Trump va encore faire des droits de douane, c'est est-ce que les Européens vont enfin se mettre dans la tête que la seule façon de travailler avec Trump, c'est de jouer le rapport de force et d'en bâtir un.
Gilles Boutin.
Précisément, si ce bazooka est utilisé, alors on ne sait pas précisément vers quoi il serait dirigé, sur quoi il porterait, ce serait le fruit de négociations qui pourraient durer quelques mois au niveau européen. Les Européens sont-ils prêts, pensez-vous, la société européenne est-elle prête à encaisser un choc, la réponse américaine, c'est-à-dire par exemple plus d'accès aux outils que nous utilisons tous dans les entreprises qui sont fournis par les géants de la tech, c'est un exemple.
Votre question est tout à fait justifiée, mais je vais aussi la renverser, c'est est-ce que les Européens sont prêts à continuer à en prendre plein la gueule sans jamais répondre ? Et là, je pense que politiquement, la deuxième question est beaucoup plus difficile que la première. Je pense que ça va être assez compliqué pour des responsables politiques d'expliquer pourquoi ils se sont laissés marcher dessus une énième fois. Ça va être compliqué. Alors, quant aux rétorsions américaines, les Américains peuvent évidemment toujours relever les droits de douane, au détriment, bien sûr, de leurs industriels en matière de production de biens. La vraie question pour les Européens, ça va être est-ce qu'on va s'en prendre aux GAFAM, aux titans de la tech ? Alors, oui, ça va être pénible, hein, l'accès à TikTok, oui. ça va devenir oui. beaucoup plus difficile. Hein. Ouais. Je vous préviens tout de suite.
Oui, mais il n'y a pas que ça.
Le streaming.
Il y a OpenAI, il y a Copilot,
Netflix,
tout
oui,
ça.
Non, effectivement, DeepSeek chinois va pouvoir se faire.
Non, mais je vous parle pas de chinois. Là,
des attributs.
De la tech américaine. Alexandre Malafaye.
Ben, il n'y a pas que la tech américaine. Le problème pour les Américains, c'est que l'Europe est un immense marché de la tech et le plus grand marché de la tech du monde. Et il y a deux fournisseurs potentiels réels, les États-Unis et la Chine. Et devinez ce que feraient les Européens si les Américains leur coupaient les vivres en la matière. Mmh. Je pense que très rapidement, il y aurait des produits de substitution chinois. J'ai cité d'ailleurs TikTok tout à l'heure. Mmh. C'était pas non plus tout à fait par hasard.
Bien sûr, François Hesbourg et notre invité sur Europe 1, Alexandre Malafaye.
En fait, ce qui est intéressant, c'est quand on essaie de comprendre Donald Trump, c'est de regarder parfois un peu la littérature ou les films. Et il y avait un très bon film qu'on a vu il y a pas longtemps, The Apprentice, qui est excellent et dans lequel on a l'âme d'année.
On comprend exactement qu'il est comme
le fameux Roy Cohn qui explique effectivement à Donald Trump comment il faut se comporter pour réussir quoi qu'il en coûte. Et par exemple, il dit il faut attaquer, fabriquer sa vérité alternative, c'est absolument nécessaire.
Deny everything.
Exactement, toujours exactement. Ouais. Et en fait, il est dans ce registre-là. Et donc, c'est pour ça qu'il est finalement plus prévisible qu'on pourrait l'imaginer. Alors évidemment, il enchaîne les sujets. Moi, les questions que je me pose de manière un peu rationnelle, est-ce que finalement, après... il a tenté de faire un truc sur le Venezuela, mais est-ce que c'est pas un peu englué quand même, malgré tout? Sur l'Iran, on a pensé qu'il allait faire bouger les lignes, il n'a rien fait.
On lui a expliqué, l'Arabie Saoudite lui a expliqué que ça, sur le cours du pétrole, ça serait un peu moyen.
On est d'accord, mais donc il a, entre guillemets, qu'il avait dit je vais m'en occuper, il n'a rien fait. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a pris le Groenland et puis dans quelques jours il pensera et il enchaînera sur autre chose?
Non, vous voulez une référence cinématographique? Pensez à Wall Street. It's all a question of box, rest is conversation. C'est qu'une question de fric, le reste c'est de la conversation.
Trump est un homme qui a de la suite dans les idées. C'est une grave erreur que les Européens commettent souvent.
On est d'accord là-dessus. Hein.
En pensant, non, excusez-moi, vous n'avez pas dit le contraire. Mais il faut commencer par ça. Ouais. Il a de la suite dans les idées. Le Groenland, c'est en 2019 qu'il a commencé pour la première fois à travailler au corps, la première ministre du Danemark. Elle m'a raconté sa première réunion. Mmh. Avec Trump, lorsque lui venait d'être élu.
Vous parlez de Mette Frederiksen.
De Mme Frederiksen. Oui. Il venait d'être élu. La première chose qu'il lui demande à la Maison-Blanche, lorsqu'il lui rend visite, c'est est-ce que je pourrais acheter le Groenland? Et elle répond, it's not for sale.
Ça n'est pas à vendre.
C'est comme ça que ça commence. Et la première chose que fait Trump lorsqu'il est élu, la première chose, littéralement, après son élection le 5 novembre dernier, la première conf de presse à Mar-a-Lago, il évoque l'achat ou la prise du Groenland sans exclure le recours à la force. La première chose dont il parle, ça et Panama, on a oublié un petit peu le Panama, mais il y reviendra.
Mais à chaque fois, c'est aussi Canada. Pour les minerais, pour les gisements.
Non, alors les motivations ne sont pas identiques dans les différents cas. Dans le cas du Groenland, on est dans un cas relativement voisin du Venezuela, c'est-à-dire c'est pas simplement de Bax, c'est pas simplement le pétrole, c'est en l'occurrence le contrôle américain sur l'hémisphère, l'agrandissement territorial et stratégique des États-Unis, tout ce que vous trouvez dans la nouvelle doctrine de sécurité américaine et le Groenland pour les Américains et notamment pour Trump, mais pas seulement pour Trump. Fait partie de l'hémisphère occidental, donc c'est dans la sphère américaine, donc c'est bon à prendre.
Mais si on se met vraiment à sa place, ou vraiment à la place de, je dirais, des états-majors américains, est-ce que finalement, dans la mesure où l'Europe n'est pas vraiment capable de se défendre à l'Est, déjà on le voit très bien, est-ce qu'elle est vraiment capable de faire le job au Groenland, à supposer qu'un jour quelqu'un veut s'en prendre, est-ce que ce n'est pas finalement logique pour le continent nord-américain et pour le principal pays de ce continent, de dire c'est quand même plus proche de chez nous, il faut qu'on puisse le contrôler, le maîtriser, les Européens ne savent pas le faire.
Je ne sais pas comment est la porte de votre appartement, mais en passant devant l'autre jour, je me suis dit qu'elle était peut-être un peu faiblarde.
Non, mais je vous pose la question.
Donc, il faut absolument que je vous exproprie.
J'entends ce que vous dites.
La réponse courte, c'est que les traités entre le Danemark et les États-Unis permettent aux États-Unis de mettre les hommes et les armes qu'ils veulent au Groenland. C'est comme ça depuis 1951 et même avant, pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc ?
Il n'y a absolument aucun problème de défense de Groenland si les Américains veulent y mettre les moyens.
Et donc,
Gilles Boutin,
Vous parliez de l'écueil, de la psychologisation dans l'analyse des comportements des décideurs. Et c'est vrai qu'on a du mal à y échapper en ce qui concerne Donald Trump. Et on a du mal à ne pas se dire que Donald Trump n'a qu'une envie, c'est juste, en regardant la carte du monde,
ça,
de l'agrandir. Mmh. Un délire de puissance. On essaye, sincèrement, intelligemment, de trouver les arguments rationnel pour
François Hesbourg,
annexer ou acheter le Groenland.
Je n'y arrive pas.
Je
n'y arrive pas. Vous avez posé la question de la défense du Groenland. Le problème de la défense du Groenland, il est résolu par le fait que le Groenland et le Danemark font partie de l'OTAN et qu'en plus, il y a des traités bilatéraux qui permettent aux Américains de mettre qui ils veulent autant qu'ils veulent.
Ils avaient mis des bases secrètes immenses qui étaient sorties comme des champignons.
Des histoires incroyables d'ailleurs de la guerre froide.
Mais vous pensez vraiment qu'il peut aller au bout ? Pensez vraiment qu'il peut aller au bout ?
En tout cas, c'est l'impression qu'il veut donner. Deux, pour l'instant, les moyens dont il se donne pour nous contraindre sont bel et bien là. La menace des droits de douane, c'est pour le 1er février. C'est demain. Hein. C'est demain, c'est pas du
c'est
tout.
Demain.
Alors, il est possible qu'il finisse par caner, que comme pour d'autres cas, bon, l'Iran, vous avez évoqué l'Iran à juste titre, il a été dissuadé par effectivement les golfiotes. Il a fini par être dissuadé par ses propres militaires parce qu'il a eu du mal à comprendre que les porte-avions qui ne sont pas à portée ne sont pas très utilisables. Le porte-avions le plus important était au large du Venezuela. Et le second était au large des Philippines. Donc, Trump aurait pu donner l'autorisation de frapper.
Mais oui, on n'était pas en place. Merci beaucoup.
Les praticables n'étaient pas là.
Merci François Hesbourg. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, Le suicide de l'Amérique, c'est paru chez Odile Jacob. Merci d'avoir été avec nous tous les matins à 8h moins le quart et 9h moins le quart. La revue de presse d'Olivier Delagarde. Et quand vous voulez, bien sûr, en replay sur le site et l'appli Europe 1.
Europe 1, le journal permanent.
20h30, Maëlle Hassani.
Bruno Retailleau dénonce un texte d'abandon à l'ouverture des débats sur la fin de vie dans l'hémicycle du Sénat. Le président des Républicains assure qu'il s'opposera à toute légalisation d'une aide active à mourir approuvée il y a 8 mois par les députés. Le risque, c'est qu'il devienne demain plus facile de demander la mort que d'obtenir un soin, affirme le sénateur de Vendée. Les motions de censure déposées par LFI et le RN devraient être examinées d'ici la fin de la semaine. Motion déposée suite à l'utilisation du 49.3 aujourd'hui par Sébastien Lecornu pour faire adopter la partie recette du budget de l'État. Le Premier ministre doit encore activer cet outil constitutionnel à 2 reprises d'ici la promulgation du texte mi-février. Mais la bienveillance du PS devrait à chaque fois sauver le gouvernement. Donald Trump s'exprime en ce moment depuis la Maison Blanche. Les déclarations du président américain sur le Groenland et les menaces de droits de douane brandies pour faire plier l'Europe sont scrutées de très près. Le Parlement européen se met d'accord sur une première riposte aujourd'hui, le gel du processus de ratification de l'accord commercial entre les 27 et les États-Unis signé l'été dernier. Le Parlement de Strasbourg, où des centaines d'agriculteurs venus de plusieurs pays européens veulent passer la nuit. Des manifestations avaient lieu aujourd'hui contre le traité du Mercosur pour mettre la pression sur les eurodéputés appelés à se prononcer demain sur une éventuelle saisine de la justice au sujet de cet accord signé le week-end dernier.
Merci Maëlle Hassani, à tout à l'heure pour l'actualité.
Europe 1 soir,
19h-21h, Pierre de Villeneau.
Toujours avec Gilles Boutin du Figaro et Alexandre Malafaille de Sinopia, le think tank. Allez voir les pages de Sinopia avec les différentes études qui sont faites. On parlait de Trump et Alexandre, vous citiez effectivement, vous disiez on a l'impression qu'il est devant une carte et dit tiens, une espèce de monopoly géant, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça. Puisqu'on est dans les références cinématographiques, ça me rappelle le film Le Jouet avec Michel Bouquet et Pierre Richard en 1976, lorsque vous avez ce gamin qui est... On le découvre au fur et à mesure du film, qui est en fait dans une cage dorée, qu'il a pas d'amis, qui voilà, et il arrive dans un grand magasin de jouets qui appartient à son père, alors que bon, c'est parce qu'il a une fortune immense, dont un magasin où il y a des jouets. Il choisit son jouet annuel, il voit Pierre Richard, il dit je veux ça, et on lui dit ben c'est pas possible, c'est un monsieur, tu peux pas choisir. Pourquoi? Et il dit ben je comprends, c'est un monsieur, il a une vie. Pourquoi? Et en fait, on pourrait tout à fait, de manière un peu anecdotique, imaginer que Donald Trump, peut-être, on lui dit, Monsieur le Président, vous ne pouvez pas annexer le Groenland. Pourquoi ?
Bah, c'est ce qui se passait.
Non, mais j'ai pensé à ça l'autre jour. Je me suis dit, c'est exactement ça.
Oui, c'était la situation dans son premier mandat. C'était
racontez-nous, Gilles Boutin. Bah,
on appelait ça les adults in the room, les adultes dans la pièce, ceux qui faisaient encore office de contre-feu, qui retenaient les velléités de Donald Trump. Parce que la première élection de Donald Trump était finalement une espèce de hold-up, si vous me permettez. C'est-à-dire, c'était très imprévu. Je ne dis pas que c'était illégitime. Simplement, Donald Trump lui-même était quelque peu surpris de son accession au pouvoir. Son équipe était moyennement structurée. Il a dû s'appuyer sur les institutions, sur les républicains, l'organe républicain qui était en place. À partir de là, il a été très souvent limité dans ses aspirations directes. Et donc, son premier mandat a été relativement indolore, on va dire. Le deuxième, il s'est réellement préparé. Il est complètement structuré. Il n'y a plus personne pour le retenir. Enfin, le seul à peu près sérieux, dit-on, c'est Marco Rubio, qui est un républicain classique, on va dire, mais qui ne joue absolument pas le rôle d'atténuation que l'on pourrait attendre de sa part. Au contraire, il est dans une forte soumission vis-à-vis de Donald Trump. Donc on est dans cette situation et on en a encore pour 3 ans.
Alexandre Lafaille.
En fait, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de décryptage de l'action de Donald Trump. C'est la grande inconnue. Et parce que ce qu'il fait avec l'Union européenne est très, très, très désarçonnant. Moi, je me pose la question fondamentale, c'est est-ce qu'en fait, son objectif, c'est véritablement de nous diviser, de nous dépecer, de faire en sorte qu'on ne soit plus rien à supposer qu'on était quelque chose sur un plan politique, et ça avec des velléités purement commerciales, et parce qu'il ne veut pas de rapport de force en face de lui, il veut être le seul à effectivement contrôler, et il pense qu'on a peut-être une chance de pouvoir exercer un rôle, donc il veut nous faire plier. Ou alors, il considère, comme il l'a dit à la tribune de l'ONU, que l'Europe n'est plus maître de son destin, et que ça pose un vrai problème au monde libre, parce que ce monde libre dont fait partie l'Union européenne est en danger de son point de vue de sa lecture, et donc il nous électrochoque, et il nous pousse pour nous amener à réagir et à faire en sorte qu'on reprenne notre destin en main. Et c'est vrai que quelque part, il nous y aide. Alors, il le fait peut-être volontairement, ou alors c'est peut-être dans un autre but, mais c'est la seule bonne nouvelle à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est que quand même là, ce coup-ci, on va pas pouvoir, comme Emmanuel Macron disait, que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Là, on voit que l'Europe politique, elle est en état de mort politique et cérébrale, qu'elle n'a pas de moyens, qu'elle est totalement inopérante ou très peu opérante, même si on a pris des décisions, même si on a quelques leviers entre les mains. Il y a un petit quelque chose qui frémit. Et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne le fait pas à dessein? En disant, on ne peut pas considérer que le monde libre, qui est composé des États-Unis et du bloc européen, plus le Japon et Taïwan, si on veut, continue à fonctionner comme ça, parce qu'on s'affaiblit collectivement.
Alors, dans la série cinématographique, on aura fait le tour. Hein. Alors, on a The Apprentice, vous avez cité The Apprentice, on a cité Wall Street, It's all a question of box, rest this conversation. Mm-hmm. Phrase de Gordon Gekko à Charlie Sheen quand il lui dit mais tu peux pas démanteler toutes les entreprises que tu rachètes.
C'est un grand moment, ça. Oui.
Ça, c'est un moment terrible. Tout est une histoire de fric, le reste, c'est de la conversation. On a parlé du jouet. Alors, c'est pas moi cette fois-ci qui parle du parrain, le film Le Parrain. C'est Jérôme Gage ce matin sur CNews et sur Europe 1 au micro de Sonia Mabrouk.
Il y a un an, jour pour jour, Donald Trump prenait ses fonctions à la Maison-Blanche. Et le monde est devenu sans dessus, sans dessous. C'est-à-dire ce qui était les fondamentaux à la fois des relations commerciales, des relations diplomatiques et des relations militaires sont balayés par l'ego, et je pèse mes mots, par l'ego d'un homme. Nous n'avons pas d'autre choix que de tenir tête. Parce que, au bout du bout, la seule chose qui reste, c'est vrai en politique intérieure comme en politique internationale, c'est l'adhésion et la fidélité à des principes et à des valeurs. Ce n'est plus un partenaire, c'est un parrain au sens mafieux du terme qui demande au pays de venir baiser la bague du parrain et de porter et de prêter allégeance dans une logique mafieuse.
Voilà, pas de chez la manne.
Hein. Il aurait pu citer cette scène d'introduction du parrain. Je vais lui faire une proposition qu'il ne peut pas refuser. Et Donald Trump fonctionne ainsi.
C'est dans le film.
Absolument.
Absolument.
Et il fait des propositions qui sont effectivement impossibles à refuser. Ouais. Et ça passe par la menace. Et notamment dans le film, cette tête de cheval déposée dans le lit d'un réalisateur pour obliger ce réalisateur à embaucher le filleul du parrain, justement le vrai filleul, au casting de ce film. On est un peu là-dedans, effectivement. C'est-à-dire que on formule une fausse proposition, plutôt une menace, et puis derrière, on attend que ça mijote et que la partie d'en face soit mûre et lâche tout.
Oui, mais Gilles Boutin, c'est ça le problème. Mais on l'a un petit peu abordé avec François Hesbourg, mais pas assez. C'est que qu'est-ce qu'on fait derrière ? C'est-à-dire que les adultes dans la pièce
ne sont plus là.
Ne sont plus là. Il dit ça, et donc c'est spreadé en bon français, c'est éparpillé dans le monde entier, et ça fait les dépêches de toutes les agences de presse du monde. Et puis, alors, il n'y a plus de gendarmes du monde qui dit « Mais monsieur le président des États-Unis, vous ne pouvez pas vous comporter comme ça. »
Mais l'ordre mondial reposait sur le fait que les États-Unis notamment, la France, l'Angleterre, etc., respectaient ces principes qui faisaient qu'on avait quand même, notamment sur le respect des frontières, sur la souveraineté des États, on tolérait un certain nombre de choses. Alors, c'était quand même à géométrie un peu variable. Hein, ça n'empêchait pas quand même d'aller bricoler par-ci, par-là, ce que les Américains ont fait en Irak, qui était loin d'être du bricolage. Donc, tout ça a quand même forcément fait bouger les lignes. Mais je pense que le constat de Trump, c'est quand même de dire que cet ordre mondial n'existe pas, que les choses bougent très vite, parce que ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est très clairement ce qui se passe avec les États-Unis, ce qu'on ne voit pas, mais ce qui avance à marche lente, mais absolument déterminée, c'est le rouleau compresseur chinois, qui ne pratique pas du tout le jeu d'échecs comme Trump, mais avec des coups couteaux, c'est le jeu de Go, l'encerclement lent et certain, un peu partout systématique.
C'est l'argument de Trump. Oui, il dit, si je ne prends pas le Groenland, c'est les Chinois qui le prendront.
Alors il le dit, mais en fait c'est un combat, oui absolument, mais c'est un combat, c'est peut-être sans doute pas vrai, mais la menace chinoise sur le Groenland, elle est, à mon avis, elle est un peu fantasmée, mais en tout cas, l'avancée du rouleau compresseur chinois, elle est absolument réelle dans
tous
les domaines.
Oui, et puis elle est vraie aussi sur la Nouvelle-Calédonie, etc.
Donc l'impuissance de l'ordre mondial pose un problème à Trump, et après, moi, ce qui me pose un vrai souci...
Il n'y a pas d'ailleurs un contentieux entre l'État français et les Chinois sur une île? Il n'y a pas un tout petit bout de terre au large de la Nouvelle-Calédonie,
absolument.
Justement où, oui, je ne veux pas trop m'avancer, mais je crois savoir que le président de la République était prêt à céder.
Il nous conteste effectivement ce droit territorial. Ouais. Mais on est pas mal chahuté dans le Pacifique. De toute façon, on a quelques emprises comme ça territoriales.
Non, mais vous voyez, c'est-à-dire qu'en parlant de Trump et de la conquête territoriale, on soulève comme ça des problèmes qui existent ailleurs dans le monde et qui nous concernent aussi plus précisément.
Le problème, le handicap profond des Européens, c'est qu'étant constitué de démocraties plutôt respectueuses des équilibres mondiaux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la démocratie américaine qui a du plomb dans l'aile, c'est qu'elle est toujours en train de retard. Ça, c'est historique. Lorsqu'il y a eu des guerres véritables, enfin, je parle des premières, seconde guerre mondiale, les démocraties étaient toujours en retard dans leurs préparatifs, parce qu'on ne veut pas voir ce qui va advenir. Et là, dans son discours, aujourd'hui à Davos, Emmanuel Macron a raison de pointer qu'il faut regagner en puissance, qu'il faut libérer, il faut avancer sur cette union des capitaux au niveau européen pour pouvoir utiliser notre épargne européenne, qu'elle ne parte pas aux États-Unis justement financer des géants qui, eux, nous bouffent, et qu'on puisse financer des géants, qu'on ait une puissance, une masse critique. Ça plaide effectivement pour une véritable Union européenne puissante. Et puis, il plaide aussi pour accélérer sur nos dépenses de défense. Et puis, aussi la question de l'énergie. Réussir de nouveau à avoir une énergie pas trop chère. Donc, avoir un mix énergétique qui ne penche pas trop du côté des renouvelables.
Il dit ça alors qu'il a tergiversé sur le nucléaire.
Absolument. Et c'est ça le problème.
Il est inaudible,
Tard, il y a un léger effet d'opportunisme. Et l'histoire nous rattrapant, on se souvient un peu sur le tard que le discours gaullien, la ligne directrice qu'on aurait
dû suivre depuis le début. C'est le problème, vous citez la parole du président de la République qui était donc audible pour ceux qui l'ont entendu à la radio et visuel pour ceux qui l'ont vu sur des extraits vidéo à la télévision.
Les lunettes, oui.
Alors, vous avez déjà les lunettes. Pardonnez-moi, qu'est-ce qui se passe? Il a un œil un peu rouge?
Il a un œil rouge, mais s'il avait mis seulement un bandeau sur un œil, ça aurait fait méchant dans un mauvais film.
Arrête, et puis c'est aussi un certain Jean-Marie Le Pen qui portait un bandeau dans les années 70 avant finalement. Non, mais tu mets rien dans ce cas-là. Tu enlèves les lunettes, t'as un œil rouge, c'est pas grave. Ça passe, tout le monde a eu des conjonctivites, c'est pas grave. Donc déjà, il y a l'image, on dit, l'image, c'est rien, c'est la beauté intérieure qui compte, ça, c'est des conneries. C'est à un moment donné, vous voyez, vous êtes président de la République, vous faites attention à ce genre de détails. Parce que résultat des courses, on va parler des lunettes au lieu de parler du fond. Sur le fond, Emmanuel Macron, comme vous le dites très justement, Gilles Boutin, parle de l'énergie. Sur l'énergie, on vient de le dire, il dit tout et son contraire, et il est plus crédible puisqu'il a tergiversé sur le nucléaire avant finalement de faire des petits EPR, alors qu'on en avait des grands qui marchaient très bien.
Il est très coupable d'avoir eu des personnes dans son gouvernement.
Et on a fermé Fessenheim qui, comme le disait très justement Nicolas Sarkozy dans son audition au Parlement, fonctionnait très bien et coûtait pas cher. Aujourd'hui, il parle également des droits de douane et comment dirais-je de la force stratégique économique de l'Europe, et là-dessus il a raison et je vous suis là-dessus. Mais même sur les sujets où il a raison, on l'entend plus.
on l'entend plus parce qu'il s'est tellement décrédibilisé sur le reste.
Il a plus de levier entre les mains.
Quoi qu'il dise aujourd'hui, même s'il dit un truc super vrai.
C'est d'ailleurs ce qui fait, à mon avis, marrer Donald Trump ou tourner en dérision tout ça. C'est qu'il y a un tel écart entre le dire et entre le faire, déjà français, mais au même européen. C'est-à-dire que les Européens, ils ont fanfaronné beaucoup avant d'aller finalement signer un acte, un accord sur un green appartenant à M. Trump il y a quelques mois. Donc ça, je pense qu'en effet, c'est ce problème majeur d'écart. Mais pour autant, là où il faut qu'on prenne la menace américaine très au sérieux, c'est qu'il y a quand même une espèce de montée en puissance d'un régime qui est quand même autoritaire. Le pouvoir de Trump s'exerce sur son propre territoire de manière autoritaire, et avec derrière l'autorité, il y a la montée en puissance de la technologie. Voilà, ce techno-autoritarisme qui aujourd'hui caractérise le régime américain et dont il faut prendre la menace vraiment
au
sérieux.
Et c'est pas pour rien que demain, le JD News que vous pourrez trouver en kiosque titre « Macron, un président à bout de souffle ». Voilà, ça c'est la une du JD News que je vous livre en primeur. Vous trouverez le journal demain, 20h44. Une petite minute de pause avec le journal permanent juste derrière. Et nous, on parlera de la commission de l'audiovisuel public dans un instant, et puis de cette proposition de loi pour mettre fin au fléau de l'antisémitisme en France portée par Caroline Yadin. À tout de suite sur Europe 1.
Et dites donc, Thomas Hill, si mes comptes sont bons, le 23 janvier, ça sera votre 500e de Culture Média.
500e? Ah oui, ça se fête, ça, Anissa.
Ben oui, il faut faire une grande fête, une grande émission avec du public.
Et puis avec plein d'amis d'Europe 1 et de Culture Média, Jean-Pierre Foucault, Cyril Ferraud, Isabelle Iturburu, Barbara Pravi, Pascal Obispo, Bérangère Krief, que des gens sympas, quoi.
Culture Média,
la 500e de Thomas Hill sur Europe 1.
On confirme la date ?
Le 23 janvier, en direct, de 10h à 11h30 sur Europe 1.
Et vous n'allez pas encore à vos yeux.
Mais on est à la radio.
Bon, alors, vous n'allez pas encore à vos oreilles.
Chez Poltron et Sofa, ce sont les super soldes en or, avec 60% de remise sur les canapés de la collection Gold.
Avec les super soldes en or Poltron et Sofa, on fait des affaires en or.
Mais elles se terminent samedi.
Poltron et Sofa, solo divani di qualità.
Et voilà.
Uniquement des canapés de qualité. Vérifiez conditions en magasin.
Europe 1, le journal permanent.
9h moins le karma et la SNI.
Wall Street dans le rouge ce soir. L'indice S&P 500 s'enfonce de plus de 2%. Le Nasdaq et le Dow Jones en nette baisse également. Les marchés réagissent aux menaces de droits de douane brandies par Donald Trump pour faire plier les Européens sur le dossier du Groenland. Le Parlement européen s'accorde sur une première riposte aujourd'hui, le gel du processus de ratification de l'accord commercial entre les 27 et les États-Unis. Les Français sont soulagés d'avoir enfin un budget. C'est les mots du député Renaissance Jean-René Cazeneuve, invité d'Europe 1 Soir. Après l'utilisation du 49.3 par Sébastien Lecornu aujourd'hui pour faire adopter la partie recette du projet de loi de finances, deux autres 49.3 seront déclenchés par le Premier ministre d'ici la promulgation du texte mi-février. Les motions de censure devraient être rejetées faute de soutien du PS. La légalisation de l'aide active à mourir au cœur des débats dans l'hémicycle du Sénat ce soir. La Chambre haute examine la proposition de loi sur la fin de vie et la majorité de droite et du centre compte bien instaurer un certain nombre de garde-fous. Le président des Républicains Bruno Retailleau fait part de ses craintes. Le risque, c'est qu'il devienne demain plus facile de demander la mort que d'obtenir un soin, affirme-t-il. Et puis le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Sporting Portugal à 21h. 7e journée de Ligue des Champions de football. L'AS Monaco affronte de son côté le grand Real Madrid.
Merci Maël Hassani.
Europe 1 Soir.
19h, 21h, Pierre de Villeneuve.
Avant d'aborder les questions d'antisémitisme en France avec la proposition de loi de Caroline Yadin et cette commission sur l'audiovisuel public qui a repris hier, juste un mot, Gilles Boutin, qui connaissait parfaitement les questions économiques. Ce forum de Davos, pour l'auditeur d'Europe 1 qui connaît pas très bien. Qu'est-ce qui s'y passe, en fait? Il y a des chefs d'entreprise, il y a des politiques, il y a les chefs d'État du monde entier.
C'est un grand raout qui a été créé par un économiste, il y a de ça quand même pas mal de...
Karl Schwab.
...de décennies, qui d'ailleurs a une santé plutôt vacillante ces derniers temps, donc restera à voir comment ce rassemblement, s'il lui survivra.
Bon, là maintenant, c'est institué. Oui. Ça fait 40 ans déjà?
Oui.
Ouais. Alexandre Malafaye, vous êtes allé plusieurs fois, vous?
Oh, plein de fois.
Plein de fois?
Non, c'est un forum qui est un vrai forum d'affaires, de business, c'est un lieu de pouvoir, c'est un lieu d'influence. C'est là que se prennent quand même, alors il n'y a pas de, pas de complot, hein, il faut arrêter de mythifier le truc, mais c'est quand même là que se façonnent des orientations, des décisions, c'est là que s'échangent des secrets, des choses qui permettent effectivement au monde des affaires, au monde politique, de se parler de manière un peu discrète et en même temps de faire...
Donc quand vous êtes patron d'une très très grosse entreprise, oui, c'est sûr vous y allez.
Ça vaut vraiment le coup d'y aller, bien sûr.
Vous avez un nombre de rendez-vous prévus et puis, je sais, enfin, pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion
d'y
aller.
On n'y va pas pour skier, quoi. Mais, hein, mais,
ouais. Et puis les places sont chères, notamment pour les médias, hein, ça se transmet comme un legs précieux. Donc mes collègues qui sont rendus, oui, m'ont raconté comment ça se passait. Il y a tout un programme et après, vous jetez dans le monde interstice pour pouvoir rencontrer certaines personnes. Beaucoup de choses se font à l'improviste et vous en ressortez lessivé.
Alors, je vous le disais, la commission sur l'audiovisuel public a repris et quand on jette une oreille de ce qui se passe sur chez nos confrères de France Inter, je vous propose d'écouter un extrait de la chronique de Merwan Ben Lazar hier qui appelait à la censure politique et notamment peut-être s'inspirer de la Belgique et interdire tout ce qui est d'extrême droite.
On a été trop gentil avec l'extrême droite. Mettre un facho au micro, c'est légitimer ses idées. Mais patience, c'est en temps et en heure que nous ferons tomber Mathieu Noël. Si. Et souvent, quand on donne la parole aux racistes, c'est sous couvert de « on reçoit tout le monde ici ». À quel moment c'est devenu une bonne chose de recevoir tout le monde ? T'es un média, t'as une responsabilité et j'attends de toi que quand même tu fasses le tri avant de me présenter des gens. Dans les médias belges francophones, il y a ce qu'on appelle le cordon sanitaire. Pas de parole donnée à l'extrême droite. J'ai l'impression que tu la prends en même temps que moi, mais on devrait s'en inspirer, c'est ça que je veux dire.
Voilà, mais Merwan Ben Lazar qui a été, repris par Jérémy Patrier-Leitus, qui est le président de cette commission sur l'audiovisuel public et qui, dans un tweet, a dit ce que vous dites est inacceptable et grave en s'adressant à Merwan Ben Lazar. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, écouter impunément une chronique comme celle-ci en se disant que finalement tout va bien et ça continue.
C'est surprenant que le service public continue Lafayette à surfer, si je puis dire, sur ce...
Alors que les dirigeants ont été entendus.
Absolument, ils sont quand même dans l'œil du cyclone, les Français sont un peu attentifs quand même à ce qui se passe, on voit bien que la société est quand même sensible, et puis qu'il y a un sujet. Et on continue à donner la parole à des hurluberlus, parce que lui, je ne le connaissais ni Neve ni d'Adam, mais tout d'un coup, on découvre sa voix, on découvre ses horreurs. Il utilise un mot qui m'a beaucoup choqué, « faire le tri ». Ça rappelle de sinistre mémoire des moments absolument odieux de l'histoire du XXe siècle. Et je ne comprends pas que ça passe et qu'il n'y ait pas effectivement plus de réaction que ça. Et alors, le deuxième point, c'est que, à la limite, si on veut faire un peu d'humour, parce qu'après tout, l'humour, pourquoi pas, même si l'humour est devenu très utilisé pour faire passer toutes les horreurs qui soient
aussi,
parce que ça,
c'est
un bon véhicule.
Jérémy Patrier, il lui dit, oui, c'est par l'humour vous faites passer des idées qui sont inacceptables.
C'est un peu trop facile. Mais à la limite, si on considère que l'humour est un véhicule et qu'on peut le considérer comme étant un endroit où on passe des choses, etc., très bien. Mais dans ces cas-là, qu'on laisse passer tous les humours, et qu'il puisse y avoir finalement le droit de se moquer un peu de tout le monde dans tous les sens, histoire d'aller jusqu'au bout de la dérision. Mais c'est toujours à sens unique, c'est toujours ciblé, c'est toujours dirigé. C'est là où le service public, je trouve, non pas se ridiculise, parce qu'on n'en est plus là, je trouve perd de sa crédibilité, et vu ce que ça coûte, ça devrait pas tourner comme ça.
Gilles Boutin.
Cet extrait que je découvre est un concentré de ce qui est reproché
au service public de l'audiovisuel
depuis des années, et c'est insupportable d'entendre tant de blanches colombes nous prétendre que non tout va bien, il y a de la pluralité à tous les niveaux, mais c'est l'incarnation de ce petit groupe qui vit en vase clos et qui ne vit que par une pensée automatique. Il y a tous les poncifs extrême droite, qu'est-ce que ça veut dire l'extrême droite aujourd'hui, de dire qu'il y a des racistes, c'est qui, enfin de qui parle-t-il quand il dit l'extrême droite? Peut-il qualifier effectivement
un facho,
de nous sortir
un facho.
Oui, alors le facho, ce terme générique, c'est... Alors,
est-ce qu'on a oublié ce que c'était qu'un fasciste?
Le fascisme commence très tôt pour un certain nombre de personnes. Hein, ça commence dès le Parti Socialiste, voire avant. cette accusation de racisme, mais où sont-ils les faits de racisme dont ils parlent? C'est une pensée automatique c'est révélateur finalement de cette intelligentsia de gauche, c'est-à-dire ce primat de gauche, mais de la gauche la plus arriérée, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on est en Union soviétique. On a des mots, on les agence, on les met en
rapport. Comme s'ils se confortaient.
Eh oui, mais parce que vous avez vu, c'est une émission de bande. Alors, autre émission de bande, c'est l'émission sur France Inter de Charline Van Necker. Et écoutez, comme elle a ironisé sur la perquisition d'une librairie, certes féministe parisienne, mais où il y avait un livre, pas comme les autres. Vous allez le découvrir.
Alors à Paris, la vitrine de la librairie féministe Violette & Co avait été vandalisée en raison de la vente d'un livre de coloriage pro-palestinien. Et vendredi, on a appris que la police s'était enfin déplacée. Bonjour, perquisition, on cherche un livre. Alors plutôt quel style, polar, essai, faites pas la maline, il est où le bouquet antisémite là? J'ai trouvé, chef, regardez, la réédition de Mein Kampf. Mais non, un livre de coloriage, on avait dit. D'ailleurs, au fait, ça a jamais encore été fait, ça, je crois, une version à colorier de Mein Kampf.
Non, je crois pas.
Avec une exégèse critique à côté, hein, une exégèse à découper. Non, je vois peut-être que ça n'a jamais été fait.
Non.
Alors, le livre recherché par la police s'intitule « From the river to the sea », traduction ouyouyouy, hein, parce que pour les uns, c'est un slogan pro-palestinien, pour les autres, c'est un slogan antisémite. Là, je vais laisser faire les historiens.
Une exégèse à découper. Vous vous rendez compte, Alexandre Malafaille?
Non, mais où il y a... je dirais, une maladie très grave dans la tête de cette soi-disant humoriste, où elle est profondément antisémite. Et ça, c'est extrêmement clair. Enfin, je veux dire, où elle est malade, où elle est totalement antisémite. C'est-à-dire, je ne peux pas trouver autre chose à dire que ça. Je ne comprends même pas qu'on puisse vouloir utiliser, là, pour le coup, je reprends le véhicule de l'humour. Là, on n'est plus dans l'humour. Là, on est dans pratiquement l'incitation à la haine.
Oui, en cause la perquisition.
Mais
pourquoi est-ce qu'on fait une perquisition? Qu'est-ce que c'est que ces flics qui débarquent dans une librairie? Est-ce que c'est parce que alors seulement elle est féministe? Alors
oui, non, il y a un effet solidarité. Tout ça se tient, ça c'est
et,
sûr.
Et à la fin, on mélange tout. C'est une espèce de gloobie-boulga.
D'autant qu'elle se cache lorsqu'il est question du sujet du livre. Là, elle élude. Je sais plus si on l'entendait dans cet extrait.
Elle dit oh, from the river to the sea. Elle dit oh là là. Elle dit ouyouyouy.
Ouyouyouy. Voilà, comme si c'était pas très grave.
C'est quand même le slogan de l'éradication d'Israël.
Exactement. Et elle se permet dans le même temps de plaisanter en disant tiens, c'est bizarre, il y a pas de Mein Kampf à colorier. Tu m'étonnes. Mein Kampf, qui effectivement était un programme atroce, n'a aujourd'hui plus de publicité, n'est plus lu par grand monde.
Il y a une édition qui a été faite avec effectivement des explications.
Et en revanche, on essaie de nous montrer sous un jour très rieur un projet qui consiste effectivement à
alors,
effacer de la carte un État.
Tu m'étonnes que l'antisémitisme progresse avec ce genre de choses. Caroline Yadan a, comment dirais-je, déposé une proposition de loi en ce sens. Et l'avocate Muriel Waknin Melki, qui a participé à l'écriture de la proposition de loi, était sur Europe 1 et elle justifie le caractère urgent de cette proposition de loi.
Nous avons besoin d'un texte qui soit fort, c'est le cas. Nous avons besoin d'un texte qui soit intégré dans le code pénal et non pas dans la loi dite loi de la presse de 1881 pour pouvoir apporter une réponse pénale ferme, puisque c'est une prévention de 5 ans qui est prévue, pour pouvoir décerner des mandats de dépôt à chaque fois que ça sera nécessaire. La création de ce nouveau délit d'appel à la destruction d'un État doit être un outil législatif qui doit nous permettre de mettre un cran d'arrêt à cette montée exponentielle des actes antisémites depuis le 7 octobre 2023. Nous avons besoin d'outils efficaces et la création de ce délit en est un. Elle permet à la juridiction de rentrer en voie de condamnation à chaque fois qu'il sera appelé de manière haineuse à la destruction ou à la négation d'un État reconnu en tant que tel par les Nations Unies.
Voilà, et la réponse pénale, c'est ce qu'il faut, parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait? On fait des articles 40, mais l'article 40, il arrive au procureur, et puis finalement, ça ne suit pas.
Non, mais ça, c'est une très très bonne initiative. On avait vraiment besoin de ça, ça aurait dû venir sur le débat de beaucoup plus longtemps. Voilà un chantier que le président de la République aurait pu initier bien plus tôt, il y avait largement de quoi le justifier et ne pas attendre la fin de son mandat. Maintenant, moi j'attends très clairement le jour du vote, à supposer que le texte puisse aller à son terme, j'attends vraiment de voir les débats et le jour du vote, et de compter ce jour-là les votants pour et surtout les votants contre, et les abstentionnistes, ce sera succulent ou horrible.
Truculent ou horrible.
Pour ma part, j'ai toujours un certain scepticisme sur ces textes très spécifiques, puisqu'après, ça peut entraîner une course à l'échalote et aussi à la revendication, et vous n'en avez jamais terminé. Ceci étant dit, on voit bien ce qu'on pointait, effectivement, que se passe-t-il du côté des juges? Et avoir un texte de loi qui nomme précisément et qui court-circuite, en quelque sorte, la propension d'un certain nombre de magistrats
à minimiser... Et on peut dire que... La justice est lente, on peut dire qu'il n'y a pas... Mais il faut quand même des réponses pénales sur des sujets aussi importants que ça.
Si on en vient à devoir concevoir le droit pour contrecarrer l'irresponsabilité d'un certain nombre de magistrats idéologisés...
Idéologisés ou pas, parce que parfois, il y a d'autres cas, et on en a parlé l'autre jour, on va libérer des criminels, faute de les avoir jugés dans les 75...
Là aussi,
moi, de.
Là aussi, la justice est malheureusement
très maladroite. Il y a des gens qui attendent 6 ans pour être jugés. Merci beaucoup, Alexandre Malafaï. Merci beaucoup, Gilles Boutin. La météo.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Marlène Duret, attention au risque d'inondation en Bretagne.
Oui, les perturbations se succèdent, elles sont assez actives et en plus elles circulent dans un contexte de sol bien saturé. Donc la prochaine, elle va arriver en fin de nuit. Vigilance orange, pluie, inondation dans le Finistère et le Morbihan dès 4h du matin jusqu'à 16h demain après-midi. Météo France prévoit 35 à 45 mm, localement jusqu'à 60 en 24h. Et au-delà des cumuls de pluie, on a ce vent de sud aussi qui va souffler assez fort. Une vigilance jaune vague submersion est en cours entre le Finistère et la Charente-Maritime dans 5 départements. Temps perturbé, donc pluvieux, venté sur une zone qui ira de la Bretagne et des Pays de la Loire à la Normandie jusqu'à l'ouest des Hauts-de-France demain, avant de gagner progressivement le Poitou-Charentes et même une partie de la Gironde. Sur le reste du pays, un temps beaucoup plus calme avec des nuages de moins en moins nombreux à mesure que l'on se rapprochera des frontières de l'Est. Une fois les grisailles matinales dissipées, on en aura pas mal sur un vaste quart nord-est. Attention également au brouillard givrant entre le Lyonnais et l'Alsace. Les températures maximales ne dépasseront pas les 4 degrés à Strasbourg, mais il fera 10 à Reims, 11 à Lyon, à Montélimar et à Caen, 12 à Paris, 13 à Orléans, Limoges, Nîmes, 14 au Mans et à Toulon, 15 à Biarritz et jusqu'à 16 degrés à Perpignan.
Merci Marlène Duret, merci à tous de nous avoir suivis. Demain, même endroit, même heure, 19h pour Europe 1 soir, demain la matinale, 7h, 9h. N'oubliez pas la matinale avec l'interview politique à 8h10. Sonia Mabrouk recevra Serge Papin, le ministre des PME, anciennement patron de